Chapitre 31, la troisième tâche.
Alors, Dumbledore pense que tu sais qui est en train de reprendre des forces ?
Murmura Ron. Tout ce que Harry avait vu dans la pancine, presque tout ce que Dumbledore lui avait dit et montré ensuite, Harry en avait fait le récit à Ron et à Hermione, et bien entendu à Sirius, à qui il s'était empressé d'envoyer un hibou. Encore une fois, ce soir-là, Harry, Ron et Hermione restèrent longtemps dans la salle commune à parler et reparler de tout ce qu'il avait vu et entendu jusqu'à ce que Harry en ait le tournis. Il comprenait maintenant ce que Dumbledore avait voulu dire en parlant d'un trop-plein de pensées qu'on était soulagé de pouvoir déverser quelque part. Ron contempla le feu qui brûlait dans la cheminée et Harry crut le voir frissonner légèrement malgré la tiédeur de la température.
« Alors il fait confiance à Rogue ?» dit Ron. « Même en sachant que c'était un mange-mort ?»«
Oui, » répondit Harry. Il y avait une dizaine de minutes qu'Hermione n'avait pas ouvert la bouche. Elle était assise, le front dans ses mains, le regard fixé sur ses genoux. Harry avait l'impression qu'elle aussi aurait eu besoin d'une pancine.
« Rita Skeeter, » murmura-t-elle enfin.
« Comment peux-tu te soucier d'elle en ce moment ?» dit Ron incrédule.
« Je ne m'en soucie pas. » répondit Hermione en s'adressant à ses genoux. « Je réfléchis. Tu te souviens de ce qu'elle m'a dit aux trois balais ? Je pourrais te raconter sur Ludo Verpé des choses à te faire dresser les cheveux sur la tête. »
C'était de ça qu'elle voulait parler, non ? Elle a assisté au procès. Elle savait qu'il avait communiqué des informations au Mangemort.
Et Winky, tu te souviens ? Monsieur Verpé est un mauvais sorcier.
Monsieur Croupton devait être furieux qu'il ait été acquitté. Il en a sûrement parlé quand il est rentré chez lui.
« D'accord, mais Verpé n'a pas communiqué d'informations volontairement. » Hermione haussa les épaules. « Et Fudge pense que c'est Madame Maxime qui a attaqué Croupton ?» reprit Ron en se tournant vers Harry. « Oui, mais il a dit ça simplement parce que Croupton n'était pas très loin du carrosse de Beaubaton quand il a disparu. »«
On n'avait jamais pensé à elle, »
dit Ron avec lenteur.
« Il est certain qu'elle a du sang de géant dans les veines, mais elle ne veut pas l'admettre. »« Bien sûr que non !»
lança Hermione d'un ton brusque, en levant enfin les yeux.
« Regarde ce qui est arrivé à Hagrid quand Rita a découvert qui était sa mère. Regarde Fudge, qui la considère immédiatement comme suspecte sous prétexte qu'elle est à demi-géante. Qui aurait envie de prêter le flanc à de tels préjugés ? À sa place, moi aussi, je dirais que j'ai une forte ossature en sachant ce qui m'attendrait si j'avouais la vérité. » Hermione jeta un coup d'œil à sa montre. « On n'a pas fait la moindre séance d'entraînement, » dit-elle avec effarement. « On devait travailler le maléfice d'entrave. Il faut absolument s'y mettre. Demain, va te coucher, Harry. Tu as besoin de sommeil. »
Harry et Ron montèrent lentement dans leur dortoir. En mettant son pyjama, Harry regarda le lit de Neville. Fidèle à sa promesse, il n'avait pas parlé à Ron ni à Hermione des parents de Neville. Harry ôta ses lunettes et se mit au lit en se demandant quel effet cela pouvait faire d'avoir des parents toujours vivants mais incapables de reconnaître leur fils. Souvent, on lui manifestait de la compassion parce qu'il était orphelin, mais il pensa que Neville en méritait plus que lui. Étendu dans l'obscurité, Harry se sentit soudain submergé par une vague de fureur et de haine contre ceux qui avaient infligé de telles souffrances à M. et Mme Londuba. Il se rappela les huées de la foule lorsque le fils Croupton et ses compagnons avaient été traînés hors du tribunal par les détraqueurs. Il comprenait ce que le public avait dû ressentir. Puis il revit le visage d'un blanc laiteux du garçon qui hurlait et ressentit un choc en réalisant soudain qu'il était mort un an plus tard. Tout était la faute de Voldemort, songea Harry, les yeux fixés sur le dé de son baldaquin. Tout remontait toujours à lui. C'était lui qui avait déchiré toutes ses familles, lui qui avait détruit toutes ses vies.
Ron et Hermione étaient censés réviser leurs examens de fin d'année, dont les dernières épreuves se dérouleraient le jour de la troisième tâche. Mais ils consacraient la plus grande partie de leur temps libre à aider Harry à se préparer. Celui-ci s'en inquiéta et leur proposa de poursuivre son entraînement tout seul pour leur laisser le temps de travailler.
« Ne t'en fais pas pour nous. » répondit aussitôt Hermione.
« Au moins, on obtiendra la note maximum en défense contre les forces du mal.
On n'aurait jamais appris tous ces maléfices en classe. »«
C'est un bon entraînement pour le jour où on sera aurore, » dit Ron avec enthousiasme.
Il lança un maléfice d'entrave à une guêpe qui venait d'entrer dans la pièce et qui s'arrêta net en plein vol.
Lorsqu'arriva le mois de juin, une atmosphère de tension et d'excitation régnait à nouveau dans le château. Tout le monde attendait avec impatience la troisième tâche qui devait avoir lieu une semaine avant la fin du trimestre. Chaque fois qu'il avait un moment libre, Harry s'entraînait à la pratique des maléfices.
Il abordait la troisième tâche avec beaucoup plus de confiance en lui que les deux précédentes. Aussi dangereuse et difficile qu'elle puisse être, Maugrey avait raison. Harry avait déjà eu l'occasion d'affronter toutes sortes de créatures et d'obstacles magiques depuis qu'il était à Poudlard, et cette fois, il avait eu le temps de se préparer à ce qu'il attendait. Lassé de toujours tomber sur eux chaque fois qu'elle parcourait les couloirs, le professeur McGonagall avait fini par leur donner la permission d'utiliser la salle de métamorphose à l'heure du déjeuner. Harry ne mit pas longtemps à maîtriser le maléfice d'entrave, un sortilège destiné à ralentir un adversaire et à l'empêcher d'approcher. Le sortilège de réduction grâce auquel il pourrait éliminer de son chemin tout objet solide et l'enchantement des quatre points, une utile découverte d'Hermione qui lui permettrait de s'orienter dans la bonne direction lorsqu'il serait dans le labyrinthe. Il avait encore un peu de mal cependant avec le charme du bouclier qui devait dresser provisoirement autour de lui un mur invisible pour détourner les sortilèges mineurs. Hermione parvint à pulvériser sa protection avec un maléfice de jambes en coton et Harry tituba autour de la salle pendant 10 bonnes minutes avant qu'Hermione trouve enfin dans son livre le moyen de conjurer ce mauvais sort. « Tu te débrouilles quand même très bien », assura Hermione d'un ton encourageant. Elle consulta sa liste et raya les sortilèges qu'ils avaient déjà appris.
« Tu verras, il y en a plusieurs qui te seront très utiles. « Venez voir ça !» dit alors Ron, debout devant la fenêtre. « Regardez Malfoy, qu'est-ce qu'il fabrique ?»
Harry et Hermione s'approchèrent. Malfoy, Crabbe et Goyle se tenaient à l'ombre d'un arbre. Crabbe et Goyle semblaient faire le guet en ayant l'air de ricaner, tandis que Malfoy parlait dans sa main qu'il tenait à hauteur de ses lèvres.
« On dirait qu'il parle dans un toki-woki, » dit Harry, intrigué. « Impossible !» dit Hermione.
« Je t'ai déjà dit que ce genre d'appareil ne peut pas fonctionner à Poudlard. »«
Bien, Harry » ajouta-t-elle d'un ton brusque en se détournant de la fenêtre. « Essayons encore une fois le charme du bouclier. »
Sirius envoyait des hiboux quotidiens à présent. Comme pour Hermione, la seule chose importante à ses yeux, c'était d'aider Harry à accomplir la dernière tâche. Dans chacune de ses lettres, il lui rappelait que ce qui se passait hors de Poudlard ne relevait pas de sa responsabilité et qu'il n'avait pas le pouvoir d'y changer quoi que ce soit.
« Si véritablement Voldemort est en train de devenir plus puissant, écrivait-il, mon souci prioritaire consiste à assurer ta sécurité. Il ne peut espérer mettre la main sur toi tant que tu es sous la protection de Dumbledore, mais ce n'est pas une raison pour prendre des risques. » « Occupe-toi plutôt de sortir de ce labyrinthe sans dommage. Nous pourrons ensuite nous intéresser à d'autres sujets. »
Harry se sentait de plus en plus nerveux à mesure qu'approchait le 24 juin. Mais ce n'était rien comparé à la panique qu'il avait éprouvée avant les deux tâches précédentes. D'abord, il était sûr que cette fois, il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour se préparer. Ensuite, c'était la dernière épreuve et, quel qu'en soit le résultat, au moins le tournoi serait terminé, ce qui constituerait un immense soulagement. Au matin du jour où la troisième tâche devait avoir lieu, un grand vacarme s'élevait de la table autour de laquelle les élèves de Gryffondor prenaient leur petit déjeuner. Lorsque les hiboux postaux apparurent, l'un d'eux apporta à Harry une carte de Sirius pour lui souhaiter bonne chance. C'était un simple morceau de parchemin plié en deux qui portait l'empreinte boueuse d'une patte de chien. Mais Harry y fut très sensible. Un hibou moyen duc déposa comme d'habitude devant Hermione un exemplaire de la Gazette du Sorcier. Elle déplia le journal, jeta un coup d'œil à la première page et recracha la gorgée de jus de citrouille qu'elle s'apprêtait à avaler.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
demandèrent Harry et Ron d'une même voix.
« Rien, » répondit précipitamment Hermione en essayant de cacher le journal.
Mais Ron fut plus rapide, il le lui arracha des mains et lut la manchette.
« Oh non !» s'exclama-t-il. « Pas aujourd'hui ! Cette vieille pie !»«
Quoi ?» dit Harry. « Encore Rita Skeeter ?»«
Non !» dit Ron.
Tout comme Hermione, il essaya de cacher le journal.
« On parle de moi ?» demanda Harry.
« Non !»
répondit Ron d'un ton qui ne pouvait convaincre personne. Mais avant que Harry ait eu le temps de réclamer le journal, Malfoy, assis à la table des Serpentards, s'écria à travers la grande salle.
« Hé, Potter ! Potter ! Comment ça va, la tête ? Tu te sens bien ? J'espère que tu vas pas piquer ta crise, hein ?»
Malfoy, lui aussi, avait à la main un exemplaire de la Gazette du Sorcier. Avec des sourires narquois, ses camarades se tortillaient sur leurs chaises pour mieux voir la tête de Harry.
« Laisse-moi lire !» dit celui-ci à Ron. « Donne-moi ça !»
Bien malgré lui, Ron lui tendit le journal. Harry regarda la première page et se retrouva face à sa propre photo, sous une manchette qui proclamait « Harry Potter, perturbé et dangereux !» « Le garçon qui a vaincu celui dont on ne doit pas prononcer le nom est instable et potentiellement dangereux », écrit Rita Skeeter, notre envoyée spéciale.
Des témoignages alarmants concernant l'étrange comportement de Harry Potter font douter de sa capacité à participer à une compétition aussi exigeante que le tournoi des Trois Sorciers. On peut même se demander s'il est véritablement apte à fréquenter l'école Poudlard. La Gazette du Sorcier est en mesure de révéler en exclusivité à ses lecteurs que Potter est sujet à des évanouissements réguliers et qu'on l'entend souvent se plaindre de douleurs à la cicatrice qu'il porte au front, souvenir du mauvais sort par lequel, vous savez qui, a tenté de le tuer. Lundi dernier, en pleine leçon de divination, l'envoyé spécial de la Gazette du Sorcier a vu Potter quitter la classe en toute hâte en affirmant que sa cicatrice lui faisait trop mal pour qu'il puisse continuer à suivre le cours. D'après les experts de l'hôpital Sainte-Mangouste, pour les maladies et blessures magiques, il est possible que le cerveau de Potter ait été affecté par l'attaque de vous savez qui et que son insistance à se plaindre d'une douleur à sa cicatrice soit en fait une manifestation de sa profonde confusion mentale. Il pourrait même s'agir d'une simulation, déclare un spécialiste, une façon d'attirer l'attention sur lui. La Gazette du Sorcier a cependant découvert certains faits inquiétants qu'Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, a soigneusement cachés au public. Potter parle le fourche-langue, révèle Drago Malfoy, un élève de quatrième année. Il y a 2 ans, des élèves se faisaient attaquer sans arrêt et nous étions nombreux à penser que c'était lui le coupable. Surtout depuis qu'on l'avait vu se mettre en colère lors d'un club de duel et envoyer un serpent sur un de ses camarades. L'affaire a été étouffée, bien entendu. Mais il a également noué des liens d'amitié avec des loups-garous et des géants. Il serait prêt à n'importe quoi pour avoir la moindre parcelle de pouvoir. Le fourche-langue, qui donne la faculté de converser avec les serpents, est depuis longtemps considéré comme une pratique de magie noire. Et il est vrai que le plus célèbre expert en fourche-langue de notre temps n'est autre que vous savez qui en personne. Un membre de la Ligue de défense contre la magie noire, qui souhaite garder l'anonymat, déclare que selon lui, quiconque parle le fourche-langue devrait faire l'objet d'une enquête. Personnellement, j'aurais les plus grands soupçons à l'égard de quelqu'un qui a les capacités de parler avec les serpents. Les serpents sont en effet utilisés dans les pires pratiques de la magie noire et sont historiquement associés aux adeptes des forces du mal. De même, quiconque recherche la compagnie de créatures aussi malfaisantes que les loups-garous et les géants a forcément un goût prononcé pour la violence. Albus Dumbledore devrait sans nul doute se demander s'il est bien raisonnable qu'un garçon présentant une telle personnalité soit autorisé à participer au tournoi des Trois Sorciers. Certains craignent en effet que Potter ait recours à la magie noire dans une tentative désespérée pour remporter le tournoi dont la troisième tâche doit avoir lieu aujourd'hui même. « On dirait qu'elle m'aime un peu moins qu'avant », dit Harry d'un ton léger en repliant le journal. À la table des Serpentards, Malfoy, Crabbe et Goyle, hilar, se tapotaient la tempe de l'index, faisaient des grimaces de dément et dardaient la langue à la manière d'un serpent. « Comment a-t-elle su que ta cicatrice te faisait mal pendant le cours de divination ?» s'étonna Ron. « Elle ne pouvait pas être là. Elle ne pouvait pas entendre. » « La fenêtre était entrebâillée, » dit Harry. « C'est moi qui l'avais ouverte pour respirer. »« Vous étiez au sommet de la tour Nord, » fit remarquer Hermione. « Ta voix n'aurait pu porter jusque dans le parc. » « C'est toi qui es censé mener des recherches sur les méthodes magiques pour écouter aux portes, » répliqua Harry. « Si on ne peut pas poser de micro à Poudlard, c'est à toi de me dire comment elle fait pour cafarder dans son journal. »«
J'ai essayé, »
assura Hermione. Le visage d'Hermione prit soudain une étrange expression, un peu lointaine. Elle leva lentement une main et passa les doigts dans ses cheveux. « Ça va? Tu te sens bien ?» s'inquiéta Ron en fronçant les sourcils.
« Oui, »
répondit Hermione dans un souffle. Elle se passa une nouvelle fois les doigts dans les cheveux, puis elle mit la main devant ses lèvres, comme si elle parlait dans un talkie-walkie invisible. Harry et Ron échangèrent un regard.
« Je viens d'avoir une idée, » dit Hermione, le regard vague. « Je crois que je sais, parce que personne n'aurait pu voir, même pas Maugrey. Et elle aurait pu se mettre sur le rebord de la fenêtre. Mais elle n'a pas le droit. Elle n'a absolument pas le droit. Je crois qu'on la tient. J'ai besoin de passer 2 secondes à la bibliothèque, seulement pour être sûr. »
Hermione prit son sac et se précipita hors de la grande salle.
« Attends !» lui cria Ron. « On a un examen d'histoire de la magie dans 10 minutes. »«
Alors ça, » ajouta-t-il en se tournant vers Harry, « elle doit vraiment la haïr, cette Rita Skeeter, pour risquer d'être en retard à un examen. Qu'est-ce que tu vas faire pendant la classe de Binns ? Réviser ?» Comme champion du tournoi des Trois Sorciers, Harry était dispensé d'examen et pendant que les autres se penchaient sur leurs copies, il restait au fond de la classe à étudier de nouveaux maléfices qui pourraient lui servir pour la troisième tâche. « Sans doute, » répondit Harry. Mais à cet instant, le professeur McGonagall s'avança vers la table des Gryffondors et s'approcha de lui.
Potter, dit-elle, les champions doivent se réunir dans la salle du fond juste après le petit déjeuner. Mais la tâche n'a lieu que ce soir, s'exclama Harry. Il craignit soudain de s'être trompé dans les horaires et, sous le coup de l'émotion, renversa ses œufs brouillés sur sa robe.
« Je le sais très bien, Potter, mais les familles des champions sont invitées à assister à la dernière tâche. Il s'agit simplement d'aller leur dire bonjour. »
Elle s'en alla, laissant Harry bouche bée. « Elle n'imagine quand même pas que les Dursley vont venir ici, non ? » demanda-t-il à Ron, l'air interdit.
« Ne fais pas, » répondit Ron. « Excuse-moi, il faut que je me dépêche, je vais être en retard chez Binns. À tout à l'heure. »
Harry termina son petit déjeuner, tandis que la grande salle se vidait. Il vit Fleur de la Cour se lever de la table des serre-d'aigle et rejoindre Cédric qui se dirigeait vers la salle du fond, où ils entrèrent ensemble. De sa démarche gauche, Croom alla les rejoindre quelques instants plus tard. Mais Harry resta où il était. Il n'avait pas la moindre envie d'aller là-bas. Il n'avait pas de famille, aucune famille en tout cas, qui prendrait la peine de venir jusqu'ici pour le voir risquer sa vie. Mais au moment où il se levait en pensant qu'il ferait peut-être bien de se rendre à la bibliothèque pour réviser un peu ses formules magiques, la porte du fond s'ouvrit et Cédric passa la tête par l'entrebâillement.
« Harry, viens, ils t'attendent !»
Stupéfait, il se dirigea vers la petite salle. Les Dursley n'étaient quand même pas venus à Poudlard. Il ouvrit la porte et entra. Cédric et ses parents étaient juste derrière. Victor Krum se trouvait à l'autre bout de la pièce et parlait en bulgare avec sa mère, une femme aux cheveux bruns, et son père, dont il avait hérité les traits. De l'autre côté, Fleur bavardait avec sa mère, qui tenait par la main sa petite sœur Gabrielle. Elle adressa un geste de la main à Harry, qui lui fit signe à son tour. Enfin, il vit Madame Wesley et Bill debout, devant la cheminée. Le visage rayonnant, ils s'avancèrent vers lui avec un grand sourire.
« Surprise !» s'exclama Madame Wesley, l'air surexcité. « On a pensé que ce serait une bonne idée de venir te voir, Harry !»
Elle se pencha et l'embrassa sur la joue.
« Ça va ?» lui demanda Bill en lui serrant la main. « Charlie aurait bien voulu venir aussi, mais il n'a pas trouvé le temps. Il a dit que tu avais été fantastique face aux magies à pointe. »
Harry remarqua que Fleur regardait Bill avec beaucoup d'intérêt par-dessus l'épaule de sa mère. De toute évidence, elle n'avait rien contre les cheveux longs ou les boucles d'oreilles avec des crochets de serpent.
« C'est vraiment gentil à vous, » murmura Harry à Madame Wesley. « Pendant un moment, j'ai cru que les Dursley... »«
dit Madame Wesley en pinçant les lèvres. Elle s'était toujours retenue de critiquer les Dursley devant Harry, mais ses yeux lançaient des éclairs chaque fois que leur nom était prononcé.
« Ça fait plaisir de revenir ici, » dit Bill en regardant autour de lui. Violette, l'amie de la grosse dame, lui fit un clin d'œil dans son cadre. « Il y a 5 ans que j'avais pas mis les pieds. Le tableau de ce chevalier fou est toujours là. Oh, le chevalier du Catogan ?»« Eh oui, » répondit Harry, qui avait fait la connaissance du chevalier l'année précédente.
« Et la grosse dame ?» demanda Bill.
« Elle était déjà là à mon époque, » dit Madame Wesley. « Elle m'a passé un sacré savon une nuit où j'étais entré au dortoir à 4 heures du matin. »«
Et qu'est-ce que tu faisais hors du dortoir à 4 heures du matin ?» s'exclama Bill en contemplant sa mère avec stupéfaction.
Madame Wesley sourit le regard brillant. « Ton père et moi, nous étions allés faire une promenade au clair de lune, » répondit-elle. « Il s'est fait prendre par Apollon Picotte. » C'était le concierge à l'époque. Ton père en porte encore les marques.
« Tu nous fais faire un tour, Harry ?» dit Bill.
« Oui, bien sûr. » Ils se dirigèrent vers la grande salle et passèrent devant Amos Diggory qui se tourna vers eux.
« Ah, te voilà, toi » dit-il en toisant Harry. « J'imagine que tu dois te sentir un peu moins fier maintenant que Cédric a le même nombre de points que toi, hein ?»«
Comment ?» s'étonna Harry.
« Ne fais pas attention, » dit Cédric à voix basse en regardant son père, les sourcils froncés. Il est en colère depuis l'article de Rita Skeeter sur le tournoi, tu sais, quand elle a laissé entendre que tu étais le seul champion de Poudlard.
« Il n'a pas jugé utile de démentir, n'est-ce pas ?»
dit Amos Diggory suffisamment fort pour que Harry l'entende, tandis qu'il s'avançait vers la porte en compagnie de Madame Wesley et de Bill.
« Enfin, ça ne t'empêchera pas de lui montrer de quoi t'es capable, hein, Ced ? Tu l'as déjà battu une fois, non ?»«
Rita Skeeter fait toujours ce qu'elle peut pour causer des ennuis à tout le monde, Amos !» dit Madame Wesley avec colère. « Je croyais que vous saviez ça, vous qui travaillez au ministère !»
Monsieur Diggory sembla sur le point de lancer une réplique cinglante, mais sa femme lui posa une main sur le bras et il se contenta de hausser les épaules. Harry passa une matinée très agréable dans le parc ensoleillé en compagnie de Bill et de Madame Wesley, à qui il montra le carrosse de Beaubaton et le vaisseau de Durmstrang. Madame Wesley fut intriguée par le saule cogneur qui avait été planté après qu'il eut terminé ses études, et elle leur raconta diverses anecdotes sur le garde-chasse qui avait précédé Hagrid, un certain Hogg.
« Comment va Percy ?» demanda Harry alors qu'il faisait le tour des serres.
« Oh, pas très bien, » dit Bill.
Il est dans tous ses états, dit Madame Wesley à voix basse, en jetant un regard autour d'elle. Le ministère veut garder la disparition de M. Croupton secrète, mais Percy a dû répondre à un interrogatoire concernant les instructions qu'il lui envoyait. D'après eux, elles n'auraient pas été écrites de sa main. La situation est très difficile pour Percy. Ils n'ont pas voulu qu'il représente M. Croupton ce soir pour juger le tournoi. C'est Cornelius Fudge qui va prendre sa place. Ils retournèrent au château pour déjeuner.
« Maman, Bill !»
s'écria Ron abasourdi lorsqu'il eut rejoint la table des Gryffondors.
« Qu'est-ce que vous faites ici ?»«
On est venu voir Harry pour la dernière tâche, » répondit Madame Wesley d'un ton joyeux. « Je dois dire que c'est bien agréable pour une fois de ne pas avoir à faire la cuisine. Comment s'est passé ton examen ?»«
Oh, bien, » répondit Ron. « Je ne me souvenais pas de tous ces noms des gobelins révoltés, alors j'en ai inventé quelques-uns, mais ça fait rien. »
Il se servit un pâté de viande avec des légumes sous le regard sévère de Madame Wesley.
« C'était pas difficile. Ils ont tous des noms du style Bordog le barbu ou Hurk le crasseux. »
Fred, George et Ginny vinrent également s'asseoir à côté d'eux et Harry passa un si bon moment qu'il eut presque l'impression d'être revenu au terrier. Il ne pensait plus à la troisième tâche qui l'attendait le soir même et seule l'arrivée d'Hermione au milieu du déjeuner lui rappela qu'elle avait eu une idée soudaine à propos de Rita Skeeter.
« Au fait, tu vas nous dire ce que... »
Mais Hermione hocha vigoureusement la tête et jeta un coup d'œil à Madame Wesley.
« Bonjour, Hermione !» dit celle-ci d'un ton beaucoup moins chaleureux qu'à l'ordinaire.
« Bonjour !» dit Hermione.
Son sourire s'évanouit en voyant l'expression glaciale de Madame Wesley. Harry les regarda l'une après l'autre, puis décida d'intervenir.
« Madame Wesley, dit-il, j'espère que vous n'avez pas cru les bêtises de Rita Skeeter dans Sorcière Hebdo. Hermione n'a jamais été ma petite amie. »«
Oh ! » dit Madame Wesley. « Non, bien sûr, je n'en ai pas cru un mot, non. »
Mais à partir de cet instant, elle devint beaucoup plus cordiale avec Hermione. Harry, Bill et Madame Wesley passèrent l'après-midi à faire une grande promenade dans le parc, puis revinrent dans la grande salle pour le grand banquet qui avait lieu ce soir-là. Ludo Verpé et Cornelius Fudge avaient pris place à la table des professeurs. Verpé semblait d'excellente humeur, mais Cornelius Fudge, assis à côté de Madame Maxime, avait l'air grave et ne parlait à personne. Madame Maxime se concentrait sur son assiette et Harry eut l'impression qu'elle avait les yeux rouges. À l'autre bout de la table, Hagrid ne cessait de lui jeter des regards. Il y eut plus de plats que d'habitude, mais Harry, qui commençait à se sentir de plus en plus nerveux, ne mangea pas grand-chose. Lorsque le ciel bleu, qui s'étendait sous la voûte du plafond magique, s'empourpra à l'arrivée du crépuscule, Dumbledore se leva et la grande salle plongea aussitôt dans le silence.
« Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans 5 minutes, je vous demanderai de vous rendre au terrain de Quidditch. » pour assister à la troisième et dernière tâche du tournoi des trois sorciers. Les champions sont priés de suivre M. Verpé qui les accompagnera sur place. »
Harry se leva, ses camarades de Gryffondor l'applaudirent, la famille Wesley et Hermione lui souhaitèrent bonne chance, et il sortit de la grande salle en compagnie de Cédric, Fleur et Krum.
« Ça va, Harry, en forme ?»
demanda Verpé tandis qu'il descendait les marches de pierre.
« Tu te sens d'attaque ?»«
Ça va, » répondit Harry. Ce qui n'était pas faux, il avait le trac, mais il passa en revue dans sa tête tous les maléfices et sortilèges qu'il avait pratiqués et se sentit rassuré en constatant qu'il se les rappelait tous. Ils pénétrèrent bientôt sur le terrain de Quidditch, qui était à présent méconnaissable. Une haie de 6 mètres de hauteur l'entourait entièrement avec, face à eux, une unique ouverture qui donnait accès au vaste labyrinthe. Le chemin qui s'y enfonçait paraissait sombre et effrayant. 5 minutes plus tard, les tribunes avaient commencé à se remplir. On entendait des exclamations enthousiastes et le martèlement des pas le long des travées. Premières étoiles étaient apparues dans le ciel d'une couleur bleu foncé. Accompagnés de Hagrid, les professeurs Maugrey, McGonagall et Flitwick firent leur entrée dans le stade et s'approchèrent de Verpé et des champions. Ils arboraient de grandes étoiles rouges et lumineuses sur leurs chapeaux, sauf Hagrid qui les portait au dos de son gilet en peau de taupe.
« Nous allons patrouiller autour du labyrinthe !» dit le professeur McGonagall au champion. « Si vous vous trouvez en difficulté et que vous souhaitiez être secouru, envoyez des étincelles rouges en l'air et l'un d'entre nous viendra vous chercher, compris ?»
Les champions approuvèrent d'un signe de tête.
« Alors, allez-y »
dit Verpé d'un ton joyeux aux 4 patrouilleurs.
« Bonne chance, Harry !»
murmura Hagrid, et tous 4 partirent dans différentes directions pour prendre position autour du labyrinthe. Verpé pointa ensuite sa baguette magique sur sa gorge et marmonna
« Sonorus ».
Aussitôt, sa voix magiquement amplifiée résonna dans tout le stade.
« Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
La troisième et dernière tâche du tournoi des trois sorciers sur le point de commencer. Permettez-moi de vous rappeler le classement actuel des concurrents. À la première place, ex aequo, avec 85 points chacun, Monsieur Cédric Diggory et Monsieur Harry Potter de l'école Poudlard.
Affolés par les applaudissements et les cris de joie, les oiseaux s'envolèrent de la forêt interdite et disparurent dans le ciel assombri.
À la troisième place, avec 80 points, Monsieur Victor Krum de l'Institut d'Armstrong.
Nouveaux applaudissements.
Et à quatrième place, Miss Fleur de la Cour de l'Académie Beaubaton.
Harry aperçut au milieu des tribunes Madame Wesley, Bill, Ron et Hermione qui applaudissaient poliment Fleur de la Cour. Il leur adressa un geste de la main et ils lui firent signe à leur tour, le visage rayonnant.
« Attention, à mon signal, Harry et Cédric !» reprit Verpé. « 3, 2, 1 !»
Il lança un bref coup de sifflet et Harry et Cédric s'engouffrèrent dans le labyrinthe. Les haies qui les entouraient plongeaient le chemin dans l'obscurité. Était-ce dû à leur hauteur et à leur épaisseur, ou bien avait-elle été enchantée? En tout cas, dès qu'ils eurent pénétré dans le labyrinthe, ils n'entendirent plus le bruit de la foule. Harry eut presque l'impression d'avoir replongé sous l'eau. Il sortit sa baguette magique de sa poche, murmura « Lumos » et entendit Cédric faire la même chose derrière lui. Au bout d'une cinquantaine de mètres, ils parvinrent à une bifurcation. Ils échangèrent un regard. « À plus tard », dit Harry en prenant à gauche tandis que Cédric empruntait le chemin de droite. Harry entendit Verpé donner un deuxième coup de sifflet. Krum venait d'entrer à son tour dans le labyrinthe. Harry pressa le pas. Le chemin qu'il avait choisi semblait complètement désert. Il tourna à droite et avança de plus en plus vite en tenant sa baguette au-dessus de sa tête pour essayer de voir le plus loin possible. Mais il n'y avait toujours rien. Pour la troisième fois, le sifflet de Verpé résonna. À présent, tous les champions avaient pénétré dans le labyrinthe. Harry ne cessait de regarder derrière lui. Il éprouvait à nouveau le sentiment d'être observé. Le labyrinthe devenait de plus en plus sombre à mesure que la couleur du ciel virait au bleu marine. Il arriva à une nouvelle bifurcation. « Pointe au nord » murmura-t-il à sa baguette magique qu'il posa à plat sur sa main. La baguette tourna sur elle-même et s'arrêta en pointant sur sa droite vers la haie. C'était la direction du nord et il savait qu'il devait aller au nord-ouest pour atteindre le centre du labyrinthe. La meilleure chose à faire consistait à prendre à gauche en attendant de pouvoir tourner à droite dès que possible. Ce chemin-là était également désert. Bientôt, Harry atteignit une autre bifurcation qui lui permit d'aller à droite. Là encore, la voie était libre. Harry ne savait pas pourquoi, mais cette absence d'obstacle le mettait mal à l'aise. Normalement, quelque chose aurait dû lui barrer le chemin. Il avait l'impression que le labyrinthe essayait de lui donner un faux sentiment de sécurité. Il entendit alors un mouvement derrière lui. Il brandit sa baguette, prêt à attaquer. Mais ce fut Cédric qui apparut dans le rayon lumineux. Il venait de surgir du chemin de droite. Il avait l'air sérieusement secoué et de la fumée s'élevait de sa manche. « Les scrotes à pétards de Hagrid. Ils sont énormes. Je viens de leur échapper. » Il hocha la tête et disparut le long d'un autre chemin, soucieux de mettre la plus grande distance entre lui et les scrotes. Harry repartit d'un pas précipité. Soudain, au détour d'un virage, il vit un détraqueur qui marchait à sa rencontre. D'une hauteur de près de 4 mètres, le visage dissimulé par une cagoule, ses mains en décomposition tendues devant lui, il avançait vers Harry à l'aveuglette. Harry entendait sa respiration semblable à un râle. Il sentit une sueur froide se répandre sur tout son corps, mais il savait ce qu'il avait à faire. Il pensa à ce qui pourrait le rendre le plus heureux, sortir de ce labyrinthe et fêter la fin du tournoi en compagnie de Ron et d'Hermione. Il concentra toutes les forces de son esprit sur cette seule pensée, leva sa baguette et s'écria « Spero patronum !» Un cerf argenté jaillit alors de sa baguette et se mit à galoper en direction du détraqueur qui recula d'un pas et se prit les pieds dans l'ourlet de sa robe. Harry n'avait encore jamais vu un détraqueur trébucher.
Hey, « Hé, attends » s'exclama-t-il en s'avançant dans le sillage de son patronus. « Tu es un épouvantard, toi, ridiculus !»
Il y eut un craquement sonore et le changeur de forme explosa dans un filet de fumée. Le cerf argenté disparut également, au grand regret de Harry, qui aurait eu bien besoin d'un peu de compagnie. Tenant à nouveau la baguette magique au-dessus de sa tête, l'oreille tendue, il poursuivit son chemin le plus vite et le plus silencieusement possible. À gauche, à droite, encore à gauche. Par 2 fois, il se retrouva dans un cul-de-sac. Il eut une nouvelle fois recours à l'enchantement des 4 points et s'aperçut qu'il était allé trop loin vers l'est. Il revint sur ses pas, prit un chemin sur sa droite et vit alors une étrange brume dorée qui flottait à quelques mètres devant lui. Harry s'en approcha avec prudence, en l'éclairant de son faisceau lumineux. Il s'agissait sûrement d'un piège, et il se demanda s'il allait pouvoir le faire disparaître.
réducto, dit-il.
Le sortilège de réduction jaillit de sa baguette et traversa le nuage de brume en le laissant intact. Harry se rendit compte de son erreur. Le sortilège de réduction n'avait d'effet que sur des objets solides. Qu'arriverait-il s'il essayait de traverser la brume dorée? Valait-il la peine de prendre le risque ou ferait-il mieux de repartir en sens inverse? Il hésitait toujours lorsqu'un hurlement déchira le silence.
« Fleur !» s'écria Harry.
Le silence revint et il scruta l'obscurité. Que lui était-il arrivé? Son cri avait retenti un peu plus loin devant lui. Prenant une profonde inspiration, il décida de traverser en courant la brume magique. Le monde bascula alors sans dessus-dessous. Harry avait l'impression de pendre du sol comme s'il était accroché par les pieds à un plafond. Ses cheveux flottaient au-dessous de lui et ses lunettes pendaient de son nez, menaçant de tomber dans le ciel sans fond. Il les rattrapa de justesse en les maintenant contre son visage et resta suspendu là, immobile et terrifié. Il lui semblait que ses pieds étaient collés au sol devenu plafond. Au-dessous de lui, le ciel, parsemé d'étoiles, s'étendait à l'infini. Il sentait que s'il essayait de bouger un pied, il se détachait de la terre et tomberait dans une chute sans fin. « Réfléchis, se dit-il, tandis que le sang lui descendait à la tête. Réfléchis. Mais aucun des sortilèges qu'il avait étudiés n'avait la faculté de remédier à un soudain renversement du ciel et de la terre. Allait-il oser bouger les pieds ? Il sentait le sang battre à ses oreilles. Il n'avait que deux possibilités, essayer de bouger ou envoyer des étincelles rouges pour qu'on vienne le secourir, ce qui entraînerait sa disqualification. Il ferma les yeux pour ne plus voir l'espace infini qui s'étendait au-dessous de lui et concentra toutes ses forces sur son pied droit qu'il arracha de ce plafond couvert d'herbe. Aussitôt, le monde se remit dans le bon sens. Harry perdit l'équilibre et tomba à genoux sur le sol merveilleusement compact. Le choc le laissa quelques instants sans force. Il prit une profonde inspiration pour retrouver son calme, puis il se releva et se hâta de poursuivre son chemin. En jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, il vit le nuage de brume dorée scintiller paisiblement sous la lune. Il s'arrêta ensuite à une nouvelle bifurcation et essaya d'apercevoir Fleur. Il était sûr que c'était elle qui avait crié. Sur quoi était-elle tombée? Avait-elle été blessée? Il ne voyait pas l'étincelle rouge. Avait-elle réussi à se tirer d'affaire ou bien était-elle dans une situation si délicate qu'elle n'arrivait même plus à attraper sa baguette? Harry prit le chemin de droite avec un sentiment de malaise grandissant. En même temps, il ne pouvait s'empêcher de penser « ça fait un champion de moins ». Le trophée était quelque part à proximité. Et il semblait bien que Fleur n'était plus en compétition. Puisqu'il était arrivé jusque-là, pourquoi ne pas essayer de remporter la victoire? Pendant un bref instant, et pour la première fois depuis qu'il avait été désigné comme champion, il s'imagina à nouveau brandissant le trophée du vainqueur devant toute l'école réunie. Pendant 10 minutes, il ne rencontra pas d'autre obstacle que des cul-de-sac. Par 2 fois, il choisit la même mauvaise direction, puis découvrit enfin un autre chemin et se mit à courir. Le rayon lumineux de sa baguette magique tressautait au rythme de ses pas, projetant son ombre tremblotante et déformée à la surface des haies. Il tourna ensuite un autre coin et se retrouva face à un scrout à pétard. Cédric avait raison. Il était véritablement énorme. Long de 3 mètres, il ressemblait à un scorpion géant avec son long dard recourbé sur son dos et son épaisse carapace qui brillait sous le faisceau lumineux de la baguette magique.
Stupéfix !
Le trait lumineux ricocha sur la carapace du scrout. Harry se baissa juste à temps mais sentit une odeur de cheveux brûlés. Le sortilège de stupéfaction lui avait frôlé le sommet du crâne. Un jet de feu s'échappa alors du scrout qui se projeta vers lui.
« Impedimenta ! » s'écria Harry.
Le maléfice d'entrave qu'il venait de lancer ricocha à son tour sur la carapace du monstre. Harry recula en titubant et tomba en arrière.
« Impedimenta ! »
Le scrout n'était plus qu'à quelques centimètres de lui lorsqu'il se figea enfin. Harry avait réussi à diriger le maléfice sur son ventre, à un endroit dépourvu de carapace. La respiration haletante, il se releva et courut à toutes jambes dans la direction opposée. L'effet du maléfice d'entrave était limité dans le temps et le scrout pouvait à tout moment retrouver l'usage de ses pattes. Harry prit un chemin qui partait vers la gauche et se retrouvait dans un cul-de-sac. Le chemin de droite n'avait pas d'issue, lui non plus. Le cœur battant à tout rompre, Harry se força alors à s'arrêter pour recourir à nouveau à l'enchantement des 4 points. Il revint ensuite sur ses pas et choisit un chemin orienté au nord-ouest. Il suivait cette nouvelle direction depuis quelques minutes lorsqu'il entendit quelque chose qui l'arrêta net. Du chemin parallèle au sien, lui parvint la voix de Cédric.
« Qu'est-ce que tu fais ? » s'écriait celui-ci. « Qu'est-ce qui te pompe ? Tu es fou !»
Puis Harry entendit la voix de Krum.
« Indoloris !»
Les hurlements de Cédric retentirent alors dans le labyrinthe. Horrifié, Harry se mit à courir, essayant de trouver un passage pour atteindre l'endroit où il l'entendait crier. Mais il n'y en avait pas, et il essaya en désespoir de cause un nouveau sortilège de réduction. Le résultat ne fut pas très concluant, mais Harry parvint quand même à brûler suffisamment la haie pour y ménager une petite ouverture qu'il put agrandir à coups de pied en brisant branches et ronces. Il se glissa au travers, les épines déchirant sa robe, et aperçut Cédric qui se tordait de douleur sur le sol. Krum, devant lui, le regardait. Harry se releva et pointa sa baguette magique sur Krum au moment où il se tournait vers lui. Krum fit volte-face et se mit à courir.
« Stupéfix !» s'écria Harry.
Le sortilège atteignit Krum dans le dos. Il se figea sur place, tomba en avant et resta immobile, face contre terre. Harry se précipita sur Cédric qui avait cessé de se tordre de douleur et restait étendu sur le dos, la respiration haletante, les mains sur le visage. « Ça va ?» demanda Harry en saisissant Cédric par le bras.
« Oui !»
répondit Cédric le souffle court.
« Oui, j'arrive pas à y croire. Il s'est approché de moi par derrière. Je l'ai entendu, je me suis retourné et il a pointé sa baguette sur moi. »
Cédric se releva encore tremblant. Tous deux regardèrent Krum.
« C'est incroyable. Je croyais qu'il était loyal, » dit Harry.
« Moi aussi, » murmura Cédric. « Est-ce que tu as entendu Fleur hurler tout à l'heure ?»«
Oui, » répondit Cédric. « Tu crois que Krum lui a fait la même chose ?»«
Je sais pas, » dit Harry avec lenteur. « Qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse ici ?»«
Non. Non, je crois qu'on devrait envoyer des étincelles rouges. Quelqu'un viendra le chercher. Sinon, il risque de se faire dévorer par un scrout.
Il ne mérite pas mieux. » marmonna Cédric, mais il leva malgré tout sa baguette et projeta dans les airs une gerbe d'étincelles rouges qui restèrent suspendues en l'air pour indiquer l'endroit où se trouvait Krum. Harry et Cédric restèrent un moment côte à côte dans l'obscurité, jetant des regards autour d'eux.
« On ferait peut-être bien d'y aller, » dit enfin Cédric.
« Quoi ?» dit Harry.
« Ah oui, oui, tu as raison.
Ce fut un moment étrange. Cédric et lui s'étaient momentanément unis contre Krum. À présent, il leur revenait à l'esprit qu'ils étaient adversaires. Ils reprirent donc leur chemin en silence, puis Harry tourna à gauche et Cédric à droite. Harry entendit le bruit de ses pas s'éloigner et se perdre au loin. Cette fois encore, il recourut à l'enchantement des quatre points pour s'assurer qu'il avançait dans la bonne direction. Désormais, tout se jouerait entre Cédric et lui. Son désir d'être le premier à atteindre le trophée était plus intense que jamais. Mais il n'arrivait toujours pas à croire ce que Krum avait fait. Utiliser un sortilège impardonnable contre un autre être humain valait une condamnation à perpétuité à la prison d'Azkaban, d'après ce que Maugrey leur avait dit. Krum ne pouvait quand même pas convoiter le trophée au point de prendre ce risque. Harry accéléra le pas. De temps à autre, il se retrouvait dans des cul-de-sac, mais l'obscurité grandissante lui donnait la certitude qu'il approchait du cœur du labyrinthe. Tandis qu'il avançait d'un bon pas le long d'un chemin droit, il vit à nouveau quelque chose bouger devant lui et le rayon lumineux de sa baguette magique éclaira une extraordinaire créature qu'il n'avait vue jusqu'alors qu'en image dans son monstrueux livre des monstres. C'était un sphinx. Il avait le corps d'un lion gigantesque, de grandes pattes dotées de griffes et une longue queue jaunâtre qui se terminait par une touffe de crin marron. Quant à sa tête, c'était celle d'une femme. En le voyant s'approcher, la créature tourna ses grands yeux en amande vers Harry, qui leva sa baguette sans très bien savoir ce qu'il convenait de faire. Le sphinx bloquait le passage en marchant d'un bord à l'autre du chemin, mais ne semblait pas avoir d'intention agressive.
« Tu es tout près de ton but !»
dit alors la créature d'une voix grave et rauque.
« Le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est de passer devant moi. »
« Dans ce cas, vous voulez bien me laisser passer, s'il vous plaît ?» demanda Harry en sachant très bien ce que serait la réponse.
« Non, »
répondit la créature en continuant de faire les 100 pas.
« À moins que tu saches résoudre mon énigme. Si tu donnes la bonne réponse, je te laisserai passer. Si ta réponse est mauvaise, je t'attaquerai férocement. Enfin, si tu ne dis rien, tu pourras repartir sans dommage dans la direction opposée. »
Harry eut l'impression que son estomac descendait de plusieurs crans. C'était Hermione qui était douée pour résoudre les énigmes, pas lui. Il réfléchit quelques instants. Si l'énigme était trop difficile, il pourrait toujours rester silencieux et revenir sur ses pas sans se faire attaquer. Il ne lui resterait plus alors qu'à trouver un autre chemin pour parvenir à son but. « D'accord, » dit-il. « Est-ce que je peux entendre l'énigme ?» Le sphinx s'assit sur ses pattes de derrière, au milieu du chemin, et récita ses vers.
« D'abord, pense au premier de ce qu'il faut apprendre. Lorsqu'on ne sait rien à l'âge le plus tendre, ensuite dis-moi ce que fait par naissance celui qui au palais a élu résidence. Enfin, pour découvrir la dernière donnée, il suffit de la prendre à la fin de l'année. Tu connaîtras ainsi la créature immonde que tu n'embrasserais vraiment pour rien au monde. »
Harry resta bouche bée. « Vous pourriez répéter plus lentement ?» demanda-t-il d'une voix timide. Le sphinx scia, sourit, puis récita à nouveau le poème. « Les indices mis bout à bout doivent me permettre de trouver la créature que je ne voudrais pas embrasser, » demanda Harry. Pour toute réponse, le sphinx lui adressa son sourire le plus mystérieux. Harry pensa que c'était sa manière de dire oui. Il y avait beaucoup d'animaux qu'il ne voudrait embrasser pour rien au monde. Il pensa tout d'abord à un scrot à pétard, mais quelque chose lui dit que ce n'était pas la bonne réponse. Il allait devoir réfléchir aux indices.
« Ce qu'il faut apprendre à l'âge le plus tendre, » murmura Harry en regardant la créature. « Il y a tellement de choses à apprendre. Marcher, par exemple. Non, 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 ça, c'est pas ma réponse. Il faut apprendre, voyons, l'alphabet. Le premier de ce qu'il faut apprendre. La première lettre de l'alphabet.
A. A. On verra tout à l'heure.
Vous pouvez me répéter le deuxième indice ? »
Le sphinx répéta les vers suivants.
« Celui qui a élu résidence au palais, » dit Harry. « Dans un palais, il y a des rois. Il y a des rois. Je voudrais réentendre la fin. »
Le sphinx lui récita les derniers vers.
« La fin de l'année Noël. Roi Noël. »
Ça veut rien dire. Harry se mit lui aussi à faire les 100 pas.
« Ce que fait par naissance celui qui, au palais,
le roi règne » s'exclama-t-il soudain. Le sphinx lui sourit.
« À règne, à nez, je ne voudrais pas embrasser une à règne. »
« Oui, c'est ça ! À la fin de la nez, il y a à régner. » Le sourire du sphinx s'élargit, la créature se leva, étira ses pattes avant, puis s'écarta pour le laisser passer.
« Merci, » dit Harry. Stupéfait d'avoir été aussi brillant, il courut droit devant lui. Il devait être tout prêt maintenant. Sa baguette magique lui indiqua qu'il suivait exactement la bonne direction. S'il ne rencontrait pas d'autres horreurs, il avait une chance d'arriver au but. Un peu plus loin, il arriva devant une nouvelle bifurcation. « Pointe au nord, » murmura-t-il à nouveau à sa baguette. Après avoir tourné un instant sur elle-même, elle indiqua le chemin de droite. Il s'y précipita et vit alors une lumière devant lui. Posé sur un piédestal à une centaine de mètres, le trophée des 3 sorciers scintillait dans l'obscurité.
Harry s'était mis à courir lorsqu'une silhouette surgit soudain d'un chemin adjacent. Cédric allait arriver le premier. Il courait de toutes ses forces vers le trophée et Harry savait qu'il ne parviendrait jamais à le rattraper. Cédric était beaucoup plus grand que lui. Il avait de plus longues jambes. Harry vit alors à sa gauche quelque chose d'immense qui dépassait au-dessus de la haie et avançait à toute allure le long d'un chemin perpendiculaire. La chose se déplaçait si vite que Cédric risquait de la heurter de plein fouet. Le regard fixé sur le trophée, il n'avait rien vu.
« Cédric !» s'exclama Harry. « Attention à gauche !»
Cédric tourna la tête juste à temps pour se jeter en avant et passer de justesse devant la chose en évitant la collision. Mais dans sa précipitation, il trébucha. Sa baguette magique lui échappa les mains, tandis qu'une araignée géante surgissait sur le chemin et fonçait sur lui.
« Stupéfix !» cria Harry.
Le sortilège atteignit le corps noir, velu, gigantesque de l'araignée, mais n'eut pas plus d'effet que s'il lui avait jeté un caillou. La créature sursauta, fit volte-face et se désintéressa de Cédric pour foncer sur Harry.
« Stupéfix ! Impedimenta, stupéfix !»
Mais c'était inutile. L'araignée était si grande ou dotée de tels pouvoirs magiques que les sortilèges ne faisaient que l'énerver davantage. Harry eut tout juste le temps d'apercevoir ses 8 grands yeux noirs étincelants et ses pinces tranchantes comme des rasoirs avant qu'elles soient sur lui. Il se sentit soulevé en l'air par les 2 pattes avant de l'araignée et se débattit comme un fou en essayant de lui donner des coups de pied. Sa jambe heurta alors une des pinces et il ressentit une terrible douleur. Il entendit Cédric crier à son tour « Stupéfix !» Mais cette fois encore, le sortilège resta sans effet. Harry leva sa baguette magique au moment où l'araignée ouvrait à nouveau ses pinces et cria «
Expelliarmus !»
Cette fois, le sortilège de désarmement se révéla efficace et l'araignée le lâcha. Mais Harry fit une chute de près de 4 mètres et tomba sur sa jambe déjà blessée qu'il sentit s'écraser sous lui. Sans prendre le temps de réfléchir, il pointa sa baguette magique sur le ventre de la créature, comme il l'avait fait pour le Scroot, et hurla, stupéfixe, au moment précis où Cédric lançait le même cri. Les deux sortilèges combinés eurent enfin l'effet escompté. L'araignée s'effondra sur le côté, écrasant une haie proche dans un enchevêtrement de pattes velues qui s'étendirent en travers du chemin. « Harry !» s'écria Cédric. « Ça va ? Elle n'est pas tombée sur toi ?»« Non, » répondit Harry, la respiration haletante. Il regarda sa jambe, elle saignait abondamment, et il vit sur l'étoffe de sa robe une sorte de sécrétion épaisse et gluante qui provenait des pinces de l'araignée. Il essaya de se relever, mais sa jambe tremblait et refusait de supporter son poids. Il s'appuya contre la haie, essayant de reprendre sa respiration, et se tourna vers Cédric. Celui-ci n'était plus qu'à 1 ou 2 mètres du trophée qui scintillait derrière lui. « Prends-le !» dit Harry, le souffle court. « Vas-y, prends-le, tu es tout prêt, prends-le !» Mais Cédric ne bougea pas. Il resta immobile à regarder Harry qui se cramponnait à la haie pour ne pas tomber. Puis il tourna la tête et contempla le trophée. À la lueur des reflets d'or qui brillaient sur le trophée des 3 sorciers, Harry voyait l'expression de désir sur son visage. À nouveau, Cédric tourna les yeux vers lui. Il prit une profonde inspiration. « Prends-le, toi, » dit-il. « C'est toi qui dois gagner. Tu as sauvé ma peau 2 fois dans ce labyrinthe. C'est pas comme ça que ça marche. » répondit Harry. Il sentait la colère monter en lui. Sa jambe lui faisait mal, son combat contre l'araignée l'avait laissé pantelant, endolori des pieds à la tête, et après tous ses efforts, Cédric était arrivé avant lui, tout comme il avait été le premier à inviter Cho au bal. « Celui qui atteint le trophée avant les autres remporte la victoire. C'est toi. Je te garantis que je suis incapable de gagner une course dans l'état où est ma jambe. » Cédric fit quelques pas vers l'araignée, s'éloignant du trophée. « Non. » dit-il en hochant la tête. « Cesse de faire le chevalier noble et généreux !» répliqua Harry d'un ton irrité. « Prends ce trophée qu'on puisse enfin sortir d'ici !» Cédric regarda Harry, qui se tenait toujours à la haie pour ne pas tomber. « C'est toi qui m'as prévenu pour les dragons, » dit-il. « J'aurais été éliminé dès la première tâche si tu ne m'avais rien dit. »« Moi aussi, j'ai été aidé !» répondit sèchement Harry en essayant d'éponger avec un pan de sa robe le sang qui coulait de sa jambe. « Et toi, tu m'as aidé pour l'œuf, on est quitte !» « Pour l'œuf, moi aussi, on m'a aidé, » dit Cédric. « On y quitte quand même !» assura Harry. Avec précaution, il regarda si sa jambe pouvait le porter, mais elle se mit à trembler violemment sous son poids. Il s'était fait une entorse à la cheville en tombant des pattes de l'araignée. « Tu aurais mérité plus de points pour la 2e tâche !» reprit Cédric avec obstination. « Tu es resté sur place pour libérer tous les prisonniers. J'aurais dû faire la même chose. J'ai été le seul à être suffisamment idiot pour prendre cette chanson au sérieux. » s'exclama Harry d'un ton amer. « Vas-y, ce trophée est à toi !»« Non !» répondit Cédric. Il enjamba les pattes de l'araignée pour rejoindre Harry, qui le regarda s'avancer vers lui avec des yeux ronds. Cédric parlait sérieusement. Il s'éloignait volontairement de la gloire que Poufsouffle n'avait jamais réussi à obtenir depuis des siècles. « Vas-y !» dit Cédric. Visiblement, ce geste lui coûtait jusqu'aux ultimes forces de sa volonté, mais son visage était ferme, décidé. Les bras croisés, il paraissait inébranlable. Harry regarda alternativement Cédric et le trophée. Pendant un instant lumineux, il se vit émergeant du labyrinthe, la coupe d'or à la main. Il se vit levant haut au-dessus de sa tête le trophée du tournoi des 3 sorciers sous les acclamations frénétiques de la foule. Il vit plus nettement que jamais le visage de Cho éclairé par la lueur d'admiration qui brillait dans son regard. Puis toutes ces images s'évanouirent. Et il n'eut plus devant les yeux que le visage sombre et obstiné de Cédric. « Tous les deux !» dit alors Harry. « Quoi ? On prend le trophée tous les deux en même temps. Ça restera une victoire de Poudlard. On sera ex aequo. » Cédric regarda Harry. Il décroisa les bras. « Tu crois ?»« Oui !» dit Harry. « On s'est aidé l'un l'autre, non ? On est arrivés ensemble jusqu'ici, alors on n'a qu'à prendre le trophée ensemble !» Pendant un instant, Cédric sembla ne pas en croire ses oreilles. Puis un sourire se dessina sur son visage. « Tu as raison, » dit-il. « Viens !» Il prit Harry par le bras et l'aida à avancer en boitillant vers le piédestal sur lequel était posé le trophée. Tous deux tendirent alors la main vers chacune des anses de la coupe qui scintillait sous leurs yeux. « À 3, d'accord ?» dit Harry. « 1, 2, 3 !» D'un même geste, ils saisirent chacun une anse du trophée. À cet instant, Harry ressentit une secousse quelque part au niveau du nombril. Ses pieds avaient quitté le sol et il n'arrivait plus à lâcher le trophée des trois sorciers qu'il entraîna comme une tornade dans un tourbillon de couleurs, Cédric toujours à côté de lui.